Et on se retrouve aujourd'hui sur Radio Grand Air pour notre émission mensuelle consacrée à la culture, la langue occitane. Marie-Hélène Désert, Jean-Claude Dugros, bonjour à tous les deux.
Bonjour, Abichat.
Bonjour à tous.
On se retrouve en ce mois de mai, il fait beau et on a aussi des invités dans les studios aujourd'hui.
Eh oui, nous avons Marie Forêt, historienne, médiéviste, chercheuse à l'Université de Bordeaux et qui se présentera un peu plus en détail tout à l'heure.
Et qui a fait le déplacement pour nous depuis Lausanne, je crois.
Lausanne en français, Lausanne en occitan.
Merci pour cette précision, Jean-Claude.
Oui. Alors, le sommaire, peut-être ?
Absolument, on vous écoute.
Voilà, donc on va commencer par l'éphéméride de Michel Chadeuil, comme d'habitude, pour voir ce qui se passe au mois de mai. Et puis après, bon, on va laisser une grande partie d'émission à notre invitée et à Marie-Hélène qui va la présenter, qui la connaît bien. Voilà, et moi pendant ce temps, je vais me reposer, ça me changera un peu. Voilà, et puis voilà, on mettra un peu de musique. Et puis entre-temps aussi, on parlera, puisqu'on va parler de Aliénor d'Aquitaine, moi je parlerai de Simone de Montfort. Voilà, donc Cathy Bernard, que tout le monde connaît bien ici, qui a écrit un livre sur Simone de Montfort. Et voilà, vous allez voir qu'elle en parle très très bien.
C'est un drôle d'Olibrius, quand même.
Mais c'était après Aliénor, mais enfin, c'est pas bien loin. Alors, on commence par l'éphéméride de Michel Chadeuil. Alors voilà, nous sommes au mois de mai, et voilà ce que nous dit Michel. D'avril à mai, tout change. La nature, les cultures, tout s'est éveillé et déborde de vitalité. Le paysage évolue de jour en jour. Qui vise sa terre ou en abriou, rien trop chassé, mai mort que viou. Qui la vise au mes des mailles, c'est sain riche et gaï. Qui regarde sa terre en avril, rentre chez lui plus mort que vif. Qui la regarde au mois de mai, se sent riche et gai. En avril, rien n'était sûr. Des gelées matinales pouvaient encore griller la vigne. On a moins de crainte en mai. Qu'à la racine d'abrial, trelio, tino, ni barial. Qu'à la racine des mailles, tout à coup, et une pas au maille. À raisin d'avril, il ne faut ni treille, ni comporte, ni baril. Il faut à raisin de mai, tout cela, et un peu plus. Vin nascute un abriou, emplis le barriou. Vin nascute au mes des mailles, l'emplis enquer au maille. Vin né en avril, emplis le baril. Mais vin né au mois de mai l'amplit encore plus. Mais tout ceci, bien entendu, nous dit Michel Chadeuil, c'était avant que les médias nous importent les scènes de glace. Et petite parenthèse pour le cousin de la ville, non, on ne vendange pas en mai. Les jeunes pousses sont ou ne sont pas prometteuses. Pour nous-mêmes, finie la prudence vestimentaire, on peut porter maintenant les habits d'été. Et en avril, pause pas une fiau, et n'a mai quitte tout ce qui te plaît. Et en avril, ne te dépouille pas d'un fil, et en mai, quitte ce qu'il te plaît. Voilà, autrefois, on disait en avril, ne quitte pas un fil, et en mai, fais ce qui te plaît. Attention, le verbe quitta peut être ambigu. C'est en mai, autrefois, que les dames donnaient congé à leurs amants peu méritants. C'est en mai que les serviteurs donnaient congé aux mauvais maîtres. Tant qu'abria ou espace à la fille, pas aux espaces d'une fiale. Au mes des mailles, nut ou vestite, vaille comme te plaille. Tant qu'avril n'est pas à l'agonie, ne te dépouille pas d'un fil. Au mois de mai, nu ou vêtu, va comme il te plaît. Mais tout ceci, bien entendu, c'était avant le réchauffement climatique. Sur le calendrier républicain, mai est en sa plus grande partie floréal, le mois des fleurs. Certes, elles n'ont pas attendu pour illuminer le paysage. Mais si abri ou faille surtil à flour, mai, libaille sa couleur. Avril fait sortir la fleur, mai lui donne sa couleur. Mai porte toujours la feuille avec la fleur. Mai porte toujours la feuille avec la fleur. Les arbres qui fleurissent tôt, mars-avril, se chargent d'abord de fleurs. Les feuilles viennent ensuite. À mai, tout arrive en même temps. Voilà qui est facile à observer. Alors quelques jours de l'éphéméride, quelques jours dans le mois de mai. Alors quelques jours dans le mois de mai. On a Saint-Urbain, le 25. Tant que Saint-Urbain n'est pas passé, le vigneron est pas rassuré. Tant que la Saint-Urbain n'est pas passée, le vigneron n'est pas rassuré. Saint-Urbain passé, vigneron rassuré. C'est vrai que le 25 mai, c'est bien rare qu'il gèle le 25 mai. Per Saint-Urbain, les vignerons sont sadoules. À la Saint-Urbain, les vignerons sont ivres. Ils sont ivres du vin à venir, bien sûr, s'il n'a pas gelé. Et le dernier jour du mois de mai, tu sais ce que c'est le dernier jour du mois de mai ? Sainte Petronille. C'est joli. Hein ? Sainte Petronille, en occitan, ça, on dit Sento Peirilio. Parce que Petronille, c'est un dérivé de pierre. Et donc, Petronille, c'est un dérivé de pierrette. Camploau per Sento Peirilio, 30 jours des reins, tu trempes la guenille. Quand il pleut à la Sainte Petronille, pendant 30 jours, tu te trempes la guenille. Camplo per Sento Peirilio, la denado par en guenille. Voilà un autre proverbe qui est un peu pareil. Quand il pleut à la Sainte Petronille, la récolte part en guenille. C'est curieux parce qu'après le mois de juin, on va trouver Saint-Médard, etc. C'est un peu. Fin mai, mois de juin, c'est un peu. C'est le paysan, l'agriculteur a beaucoup peur de la pluie. Ben oui, parce qu'il y a les foins, il y a les, voilà.
Et puis pour voilà. Les vignerons, s'il pleut, s'il oui. pleut sur la jeune feuille et qu'il fait chaud en même temps, mildiou assuré quand même. Et
ouais.
Donc ça n'a pas changé.
Oui, on dit en français, la vigne coule. Cool. Mmh. Voilà, ben on va écouter un peu de musique, hein,
oui,
si vous le voulez bien.
Avec un artiste catalan, je crois.
Oui, voilà, donc pour faire plaisir à notre invité. Voilà, donc c'est Raimon, qu'on a bien connu dans les années 70-80. C'était un peu un rebelle par rapport à ce qui s'est passé en Catalogne. C'est toujours le cas, mais en fait, à l'époque, c'était quand même plus virulent, je pense. Voilà, il chantait des chansons très belles et très, très expressives. Et celle-là, elle s'appelle « Je vinc d'un silenci ». Je viens d'un silence.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg de gent que va alçant-se des del fons dels segles de gent que anomenen classes subalternes jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens de xiquets que juguen i de vells que esperen mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Silenci que no és resignat d'on comença l'horta i acaba el secà d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg de gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorta i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent i estima la vida que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Raimon, à l'instant, sur Radio Grand Air, la Catalane. Et...
C'est beau.
Oui, c'est beau.
C'est beau.
Oui, et puis ça nous change un petit peu de nos oui. habitudes
et
dans
alors,
l'émission.
Et alors, Marie, qui parle catalan,
oui.
Tu peux nous dire dans quel contexte ces musiques, Raimon, Luis Llach, etc., toi, tu connais bien la Catalogne. Donc c'est les années 70.
Oui, c'est la fin de la dictature de Franco. En tout cas pour l'Estaca qu'on écoutera après, je crois. On est encore sous Franco, donc chanter ce type de chanson, et en plus en catalan, c'était quand même avoir un certain courage à l'époque.
Oui.
Et même après, pendant la pseudo-transition démocratique, voilà, c'était quand même revendicatif, ne serait-ce que d'utiliser le catalan, qui était, voilà, t'es pas encore tout à fait accepté.
Alors toi, Marie, tu es historienne, donc médiéviste. Qu'est-ce qui t'a amenée à l'histoire d'abord ?
J'ai l'impression que j'ai toujours été attirée par l'histoire, en fait, parce que depuis toute petite, dans ma famille, on parlait beaucoup d'histoire, on faisait beaucoup de visites, de musées, de monuments, etc. Donc, en fait, je sais pas, ça, naturellement, il n'y a pas eu de déclic particulier. Et après, c'est vrai que au collège, j'ai eu une professeure d'histoire en troisième qui était vraiment super, et ça m'a confortée en fait dans ma volonté de faire ces études-là.
Donc l'histoire c'est vivant, donc.
Oui, l'histoire c'est pas du tout, et c'est ce que j'essaye de faire, hein, même quand je fais des présentations, des conférences ou même dans mes livres, j'essaye de montrer que les gens, pour là en l'occurrence du Moyen-Âge, étaient des êtres humains comme vous et moi. Après voilà, avec une peut-être une société différente et des normes culturelles et sociales différentes. Mais ça restait des êtres humains, et en fait, faut pas croire que c'était des animaux bizarres, voilà, qui ont rien à voir avec nous, au contraire. Donc en fait, la manière de ressentir les choses, etc., c'est la même que la nôtre.
Alors hier soir, justement, j'entendais à la télévision, je ne suis plus capable de dire le nom de l'émission, un historien dire que le vocabulaire, par exemple, de la douleur, de la souffrance, avait complètement changé, c'était beaucoup enrichi parce que on était arrivé aujourd'hui à une forme d'intériorité qui n'existait pas. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'en plus ça prend comme postulat que le français, enfin comment dire, on ne peut peut-être pas étudier les langues d'alors comme on étudie le français aujourd'hui. Le corpus est beaucoup plus oral, j'imagine.
Oui.
Et ce ne sont pas les mêmes classes sociales qui, on ne peut pas encore parler de classes sociales, mais ce ne sont pas les mêmes qui disent les mêmes choses.
Oui.
Et j'ai trouvé bien que ce soit un historien parfaitement reconnu et qui disait des choses très intéressantes, ça m'a quand même interrogée sur le point de vue qu'on prend, la posture qu'on prend quand on étudie les attitudes devant les choses de la vie, à des époques reculées où, effectivement, le vocabulaire n'est pas le même, certes, mais les humains, eux, sont toujours les mêmes.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est surtout que, en fait, on a très peu d'écrits privés, d'écrits personnels pour certaines périodes. Moi, je vois pour la période que j'étudie, dans le cadre de ma thèse, je vais jusqu'à la deuxième moitié du XVIe siècle. J'ai un peu débordé le Moyen-Âge. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, peut-être un peu sur la fin de la période, à partir du XVe siècle, mais c'est encore assez rare. Et il y a quelques exemples, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. On n'a pas d'écrits privés. Donc, en fait, savoir ce que ressentent les gens, savoir comment ils peuvent vivre certaines situations, mais c'est très difficile d'accéder à ça, et on va avoir ou des textes de loi ou des chartes ou des choses comme ça qui sont très normalisés.
Donc, ou des jugements, par exemple.
Voilà. Après, on peut peut-être essayer d'accéder à ce genre de choses. Alors, je sais pas, parce que c'est pas des sources que moi je consulte dans le cadre de mes recherches, mais peut-être que dans le cadre de procès, je pense à des procès d'inquisition, par exemple, où là, en général, les textes du procès sont conservés. Peut-être que là, on a plus la parole des gens, mais encore, ils sont dans un contexte qui est particulier, parce que quand vous passez devant le tribunal de l'Inquisition, je ne suis pas sûre que vous soyez particulièrement relâché pour raconter comment vous vivez telle et telle situation. Donc,
oui, puis il y a toujours un intermédiaire entre l'individu et la mise en écrit. Donc.
Oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, il y a aussi cet effet des langues, en effet, où moi je vois dans mes études, j'ai très peu de français. J'ai quasiment que du gascon ou du latin. Et sur la fin de la période, j'ai du français, ce qu'on appelle le moyen français, donc c'est le français du XVIe siècle. Principalement pour le gascon, qui est les sources principales que j'ai, c'est pas normalisé comme langue. Donc on va avoir des variantes masculin féminin, on va avoir, après c'est un peu une interprétation qu'on en fait aussi. Moi je vois, comme je parle catalan, et parfois je fais des analogies avec le catalan, ce sont des langues sœurs. Et voilà, et on essaie entre nous d'échanger. Parfois, il faut un peu deviner ce que ça veut dire. Mais je pense qu'ils n'avaient pas moins de vocabulaire que nous et pas moins d'émotions que nous. C'est juste que pour nous, ça nous est inconnu par rapport aux sources, quoi.
Et puis, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ce sont des sociétés, puisque vraiment, c'est très, on circule beaucoup, mais il y a quand même des lieux avec des spécificités. Ce sont quand même des sociétés beaucoup plus collectivistes où peut-être les sentiments personnels sont moins mis en avant.
Oui, on n'est pas dans une... C'est sûr que si on compare avec la société d'aujourd'hui qui est de plus en plus individualiste jusqu'à quasi à l'extrême, là, évidemment, si vous voulez survivre du mieux que vous pouvez, il va falloir vivre avec vos voisins ou votre communauté. En effet, on est vraiment dans une vie collective de solidarité, etc. Parce que si vous restez tout seul dans votre coin, vous survivrez pas longtemps, quoi. Mmh.
Alors toi, tu étudies donc le sujet de ta thèse, c'est l'emprise.
Alors le sujet de ma thèse, alors l'intitulé exact, vous allez voir, ça fait comme dans les films Un air de famille, tout le monde s'en va quand j'ai fini. L'intitulé de ma thèse, c'est Bayonne et la mer au Moyen Âge, donc aménager, naviguer, contrôler de la Dour à l'océan. Et donc pour simplifier tout ça, en gros, j'étudie la manière dont la ville de Bayonne se développe à partir du début du XIIe siècle en mettant un contrôle de plus en plus fort sur l'embouchure de la Dour. Cette relation que la ville entretient avec le fleuve et aussi avec la Nive, puisque Bayonne est sur la confluence entre la Nive et la Dour. Et donc, vous voyez, il y a tout un volet contrôle politique, économique, les stratégies employées par la municipalité, etc. Il y a aussi un volet environnemental, puisque en fait, la Dour est ce qu'on appelle un fleuve vagabond qui se déplace dans les dunes et qui est pas fixe. Et donc, Bayonne va avoir à composer avec ce fleuve qui se déplace, qui s'ensable, qui est navigable ou pas navigable. Voilà.
Et donc, il y a des gens, je suppose, à exproprier pour pouvoir garder le contrôle.
Et donc, les Bayonnais font tout pour qu'il n'y ait aucune communauté qui se développe entre leur ville et la sortie sur l'océan. Essayent de contrôler par la réglementation, etc. Alors, c'est du work in progress, voilà. Essayent de contrôler en réglementant toutes les activités, mettre la main sur tout ce qui se passe, jusqu'à avoir une exclusivité portuaire et, l'épilogue de toute cette affaire, c'est que à la fin du XVIe siècle, ils obtiennent l'autorisation de détourner la Dour directement devant chez eux, et c'est là où la Dour se jette aujourd'hui. C'est une embouchure artificielle qui a été percée à la fin du XVIe siècle. Donc, ils essayent de contrôler, et puis au bout d'un moment, quand ça s'ensable et que la ville de Bayonne entre en crise, ils arrivent par des pressions, parce qu'en plus c'est une ville frontière vis-à-vis de l'Espagne. Ils arrivent à obtenir l'autorisation carrément de, alors les habitants de Cabreton vous diraient, de voler le fleuve. Littéralement.
Mais c'est pour ça que la ville de Le Boucau, en fait, c'est là où...
Autrefois, exactement. Il y a Vieux Boucau, voilà. Et aujourd'hui, Le Boucau, c'est ça, exactement. Voilà. Et les gens ne le savent pas. Hein.
Et c'est de l'excellent occitan, hein, le Boucau, la bouche.
Le Boucau. Voilà.
Allez, un peu de musique, et après, on va parler d'Aliénor d'Aquitaine, si vous voulez bien.
Alors, on va écouter un artiste, cette fois-ci, occitan. On va faire une petite parenthèse, on revient... À nos sources, avec un artiste qui a beaucoup voyagé, en fait. On l'avait écouté déjà dans l'émission, et il est marseillais, mais il a grandi en Allemagne, il est allé aussi au Maroc, en Égypte, au Liban. Il s'est en fait découvert la musique occitane à Beyrouth. On va écouter justement l'artiste qui s'appelle Rodin sur Radio Grand Air, et on se retrouve juste après.
Il chante Rey de la Lune, roi de la Lune.
Dis combat en subre dai rodan aestrasa marupa e bartassad et punu des sang vives toute une longue pergamine.
Dirai un mot vengu des reins. Si est le rey de la lune, si est reine de la ferune, si est les âmes de la marune. Les aigues de la palune, les anges des séparades, c'est que pareil ces masques, si en lise séparades, plague de sa majesté des muscles. Si es régine de luz, si oreille des gaires plus, si en enfant des montagnes, enfin l'aire des tu. Les reines les séparent d'aqueste paraule fusque sous lise séparale, ou sans séparade des mots que n'est son dit ma bouca. Teste à court du la décède, terre veuse et teste sec.
L'esperma dura la lingua, di la se ovo pa de deco, maman come la lec delle, e di mon cuore posica de mo, disu parla delle.
Sur l'oreille de la lune, souverain de son pur, ancien saberu che so pur, conta les estelles. Peri de gigant, campa pao da l'endemain, arasieu, un enfant batteu sen velo. E sabi pa come fa sen zelo, es come per sen boula sen zalo, es come perdre la vie stop perderi ma fortuna su de camintoir. E ara di mon quoir, y'a pu gaire d'humain. Io fugilige, di me sui passe l'outin, e si o pu rei de rein, ansi s'acaba mon camp. Si o rei de la lune, si es reine de la ferune, si an les âmes de la marune, les aigues de la palune, les angi de separade, si que parei se masque, si an les separadi, plague de sa majestà de musco. Si es regine de luz, si o rei de gaire plus, si an enfant de montaisune, en fin l'aire de tu. Li rei re separenda che ste paraulo fusco su lise separalo senza parade mo che nei sun di mabucco. Parli d'omo de malengo, te tu che taluences. Di freme valente de mo de la mu che value ogni netta fagen li maletto. Buden partire se strinciaie. Puli de sigeleste, fo che più renus reste. Un chale nu sia la calou de Cayenne et la luce égyptienne ca érimino comme per oublida dis un amical en que sia élimina dis un chapelet bis sous ses pas télévisa sia les raies de la reine transforma en bétu pour une partie et sympathie et sans cesse perdre des teintes vieux et sympathie pour rien suffisant ma en pratique parlant d'un manque nous tanque veillo que m'estaki et tu que t'escapes vestirai même à l'outin qu'elle irait dit d'accord si l'homme a dit mille tout ou a mille temps passe à tu. Si es regine dell'iscla, i poupe l'isque, si es ma calypso. Per le mappe seritan d'ancier, per ton avere tes yeux, ya geritan fe fa geritan quand la mou de l'UND et tes anciens. Et si au purin de tout, vi que si au purin de tu. Si au rei de la lune, si es reine de la ferune, si en les âmes de la marune, les aigues de la palune, les angis de separade, c'est que pareil se masque, si en les separade, plague de sa majestà de musco. Si es regine de luz, si o rei de gaire plus, si an enfant de montaisun, en fin l'aire de tu. Li rei re separenda, que este paraulo fusco sun, lise separalo, senza parade mo, que nei sun di mabucco.
Et sur Radio Grand Air, voilà, on a découvert un artiste passionnant, en tout cas, il s'appelle Rodin.
Oui.
Voilà. Si vous avez envie de découvrir la langue occitane de façon moderne, eh bien, c'est possible.
Je vais me répéter, mais c'est très beau. Alors, Marie,
oui.
Tu t'intéresses aussi à tout un tas d'autres sujets qui concernent l'Aquitaine.
Oui.
Et entre autres, tu as participé à une collection chez Memoring sur des personnages de premier plan qui ont fait l'histoire aussi, en tout cas qui sont emblématiques de l'histoire de l'Aquitaine, dont Aliénor d'Aquitaine, le Prince Noir, John Talbot. Tu peux nous parler de cette collection-là qui a... Tu disais qu'il compte une trentaine de titres.
Oui, c'est une collection qui a vu le jour en 2022. Donc, Aliénor d'Aquitaine, c'était le tome 1. En fait, c'était un peu, voilà, ça s'appelait Figure de Nouvelle-Aquitaine. L'éditeur s'est dit que quoi de mieux que commencer par Aliénor, dont le duché était peu ou prou la Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui. Et en fait, l'objectif de cette collection, c'est de proposer des livres en format livre de poche. Donc, accessible à tout le monde. C'est ce qu'on peut rappeler de la vulgarisation, mais de la bonne vulgarisation, entre guillemets.
Oui, parce que ça chaque, fait une centaine voilà, de pages et chaque, tu t'attaches...
C'est ça, et chaque ouvrage est fait par un spécialiste. Et en fait, ça couvre... L'idée, c'était de parler de personnages ou qui ont fait l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine ou qui sont nés en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a aujourd'hui, je crois, je sais pas exactement, mais je pense une quarantaine de tomes. Et les trois que tu as cités, ce sont des personnages médiévaux. Mais après, il va y avoir des personnages contemporains, des politiques, des sportifs de toutes les époques, des navigateurs, voilà. Donc c'est assez varié et il y en a pour voilà. Tous les goûts.
C'est ce qu'explique Anne-Marie Cocula qui a fait la préface du premier tome,
oui.
du premier volume. Et dans ces livres, tu t'attaches aussi à remettre à leur place les faits historiques pour sortir un petit peu des légendes qui parfois nous font plaisir, mais qui sont peut-être pas tout à fait vraies.
Oui, alors ça, c'est un peu ma croisade, surtout sur le Moyen-Âge. Il y a pas mal de légendes qui circulent sur un certain nombre de personnages, ben, notamment Aliénor d'Aquitaine et le Prince Noir, pour ne citer qu'eux. Et en fait, moi, en tant qu'historienne, ben, je m'attache à travailler sur des sources et pas sur des inventions. Où, voilà. La création de ces légendes est un fait historique, hein, parce que la manière dont les sources ont été interprétées dans le passé, ou même la postérité du personnage a été manipulée dans les siècles suivants, ça fait partie de l'histoire. Mais si on veut vraiment approcher la réalité historique de ces personnages-là, évidemment, le premier travail à faire, c'est de comprendre comment est née cette légende autour d'eux. Et une fois qu'on a compris comment était née cette légende, eh bien, de repartir un peu sur une page vierge pour regarder, retourner aux sources et regarder ben, qu'est-ce qu'on sait réellement ? Est-ce qu'on sait quelque chose ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Voilà.
Là, ce qui m'a beaucoup intéressée, en particulier, c'est d'une part que sans pour autant porter atteinte à la personnalité, à la personne d'Aliénor d'Aquitaine, malgré tout, tu remets les choses à leur place. C'est-à-dire, elle n'a pas, nécessairement, absolument, fait naître les cours d'amour. Non, la culture occitane n'était pas supérieure à la culture en langue d'oïl. Elles se sont nourries les unes les autres en permanence, en fait. Et ça remet un petit peu l'occitanisme à sa place aussi, parce qu'on on survit en Occitan souvent grâce à des légendes. Hein, on parle de la fine amour, on parle du parage, on parle de la convivience, mais on oublie que aussi en langue d'oïl, ces choses se développaient de la même manière. On n'a pas à établir de hiérarchie non plus. Ça serait pas être très rigoureux que de dire ça. Or, souvent, on l'entend dire.
Oui, bah après, moi, c'est vrai que parfois, quand je fais la conférence sur Aliénor, ça m'arrivait qu'on me dise « Oh, bah, je m'attendais pas à... » Ces gens étaient parfois, enfin, ça arrivait rarement, mais parfois une ou deux personnes qui étaient un peu déçues parce qu'ils avaient une image d'Aliénor d'Aquitaine qu'ils avaient croisée, justement, ou dans les émissions qui sont parfois historiquement un peu aléatoires.
D'héroïnes.
ou dans les romans historiques qui prétendent pas une justesse historique particulière. Mais c'est pas pour dénigrer l'une ou l'autre, mais c'est en effet dans ce contexte particulier, bien sûr, hein, que la culture en langue d'oc était très importante à cette époque-là. Il y a quand même une grande partie de l'Occident qui parlait ou au moins comprenait les langues d'oc, puisque c'était très varié. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à faire un parallèle avec la cour de France. Alors c'est vrai que la cour de France, bon, je le dis dans le livre, mais je pense que c'était pas la cour où on s'amusait le plus. Hein, c'était une cour qui était très stricte, avec des conseillers royaux, par exemple Bernard de Clairvaux, voilà, on peut pas se dire que c'était le type le plus drôle du royaume. Et c'est vrai que on a cette image-là, mais les cours, c'est pas que les cours royales, ce sont les cours ducales, ce sont les cours comtales, etc. Et il y a énormément de circulation, que ce soit. Et par exemple, un personnage comme Richard Cœur de Lion a écrit en langue d'oc et a écrit en langue d'oïl. Donc il y avait pas cette peut-être cette rivalité et cette barrière que nous, on peut poser aujourd'hui, parce que nous, on a l'image de frontières, etc. Là, ça n'existait pas. C'était un métissage qui se faisait petit à petit d'une langue avec l'autre. Et donc, c'est moins coupé. Et les troubadours ou les trouvères ou les troubaïrites, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes non plus, aller de cour en cour, que ce soit la cour Plantagenêt, la cour de Champagne, la cour de Provence, la cour de Poitiers, etc., etc.
Et ce que je trouve vraiment d'autant plus important à dire, c'est que peut-être cette rigueur historique est loin de desservir les mouvements occitanistes, parce que justement cette rigueur apporte du sérieux et nous permet de sortir un petit peu de quelque chose de folklorique dans le sens au sens péjoratif, hein, pas au sens parce que justement on nous dit être trop militant et pas assez rigoureux. Donc là, je trouve intéressant justement de revenir aux faits, revenir à l'histoire. C'est alors n'hésitez pas sur cette petite collection. Je dis petite, même petite par le format, mais grande par le nombre des volumes. Donc maintenant une quarantaine. Aliénor d'Aquitaine est le premier volume. Et puis, il y a donc différents personnages de différentes époques. C'est une petite collection, ça se lit bien facilement. Et ton langage, Marie, est très accessible et très précis. Ne vous privez pas, donc, aux éditions Memoring, qu'on peut, je suppose, facilement se...
Oui, vous pouvez vous le procurer dans toute librairie. Si au pire, vous pouvez le faire commander par votre libraire ou directement sur le site internet des éditions Memoring.
Voilà. Alors, tu as aussi publié « Préservez-nous du mal » sur la peste. Toujours, on est 14e, du 14e au 18e siècle. Donc, c'est une somme. C'est
oui.
Donc, tu disais que c'était une thèse.
Oui, tout à fait. C'est la thèse de Stéphane Barry. Stéphane Barry, qui est le créateur des éditions Memoring et qui est docteur en histoire, qui a fait sa thèse sur la peste en Moyenne-Garonne du 16e au 18e siècle. Et donc, pendant qu'on était confinés chacun dans notre pays... parce que j'étais en Catalogne à cette époque-là, Catalogne côté espagnol, et on a retravaillé sa thèse pour la publier, et donc moi, en bonne médiéviste, je lui ai dit, mais tu ne peux pas parler de la peste sans en partir du XIVe siècle, parce que quand même, cette grande épidémie de peste noire. Donc on a retravaillé, j'ai rajouté quelques parties sur le Moyen-Âge et sur justement les représentations de la peste, voilà, comment les contemporains ont ressenti cette espèce de vague mortifère qui a déferlé sur l'Europe. Et donc voilà, c'est un livre qui en effet rien à voir avec les figures de Nouvelle-Aquitaine pour le coup. Après, l'avantage c'est que les chapitres peuvent se lire indépendamment malgré tout. Il y a un côté, une partie très chronologique où on va un peu, alors qui est peut-être un peu fastidieuse à lire pour le coup, mais on va expliquer vraiment l'enchaînement des épidémies. Et après, c'est plus une étude sociale, en fait, de comprendre comment la société réagit, comment elle s'organise, etc., etc.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a l'habitude de voir la peste à travers la littérature, à travers le cinéma aussi, et on ne se l'imagine pas ici. Alors que on a été touché comme tout
oui.
le monde, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Il est rare quand même qu'on ait des ouvrages comme celui-ci sur la région bordelaise.
Oui, il y a eu des études très intéressantes sur d'autres régions, sur la grande peste de Marseille, bien sûr, celle de 1720. Il y a eu des travaux sur Toulouse qui ont été réalisés aussi. Il y a une historienne qui travaille dessus. Et puis là, moi, en faisant mes recherches pour ma thèse, rien à voir avec la Dourme. Enfin, si, un petit peu, parce qu'on contrôle le fleuve, donc on va contrôler quand il y a les annonces d'épidémie. Mais j'ai trouvé des données où on peut suivre quasiment... jour après jour, l'évolution d'une épidémie. J'ai fait une présentation à Bayonne là-dessus, et c'est vraiment intéressant de voir comment ça s'organise. Et en fait, c'est vrai que c'est assez marrant entre guillemets, mais quand je fais une conférence sur la peste, il y a plein de choses que j'ai plus besoin d'expliquer parce qu'en fait, les gens l'ont vécu. Et donc expliquer pourquoi on doit présenter un billet de santé pour entrer dans une ville, c'est très facile parce qu'on a eu à présenter des attestations pendant des mois et des mois. Enfin voilà, plein de détails. Du coup, les gens ont peut-être plus de facilité à se mettre dans la peau d'une personne du XIVe siècle, voilà, plus qu'ils ne le pensent peut-être d'ailleurs.
Mais il y a 10 ans, ça aurait été très très loin.
Exactement.
De nous. En effet. Bien.
Allez, un peu de musique.
Oui, on va retrouver un autre artiste qui est, on va dire, aussi dans l'impulsion de la modernité au niveau de la culture occitane. Il s'appelle Arnaud Gans. Il est chanteur, musicien, il est aussi auteur et compositeur occitan. Il va moderniser un petit peu tout ça. On va l'écouter avec un titre que tu vas nous présenter, Jean-Claude. T'es meilleur que moi en occitan.
Des joues spoon de Lyon. Alors c'est marrant, ça ressemble beaucoup à des chansons traditionnelles.
Oui.
Joulpoun de Miramont, Joulpoun de Nanto.
Voilà, donc ça s'appelle
Des Joulpoun de Lyon. Sous le pont de Lyon, mais quel est ce Lyon, je ne sais pas. Donc Arnaud Gans.
Da sul pont del Lion la deri Margarito se bagnò. Da sul pont del Lion la deri Margarito se bagnò. Ero se bagnò palare rinnera bora bugado. 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 Pasun tres cavaliers la deri tres cavaliers d'armado. Pasun tres cavaliers la deri tres cavaliers d'armado. Armado turarura tarurarura turarura Son tres caballes la deri, tres caballes d'armado. Son tres caballes la deri, tres caballes d'armado. Sofet nudera van la deri, que no veron la bairo. Sofet nudera van la deri, que no veron la bairo. Sofet nudera van la deri, que no veron la bairo. Sofet nudera van la deri, que no veron la bairo. Entendo un fin la arma la deri, que ni yo de esta fendo. Entendo un fin la arma la deri, que ni yo de esta fendo. Entendo un fin la arma la deri, que ni yo de esta fendo. Entendo un fin la arma la deri, que ni yo de esta fendo. Late calva tu a la deri, mes late cal bien bate. Late calva tu a la deri, mes late cal bien bate. Per morto la chitano, tre scopla nefra per la deri, per morto la chitano.
Du rythme à l'instant avec Anno Kans, précisément, cher Jean-Claude.
Oui, 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 Anno Kans. Voilà, mais on va rebondir sur ce que nous disait Marie. Et donc, cette civilisation occitane qui a eu son heure de gloire au 12e, 13e siècle, ben elle a disparu. Et elle n'a pas disparu toute seule. Elle est pas, même si on dit que les civilisations ne sont pas éternelles, notre civilisation occitane, elle, malheureusement, elle n'est pas morte de sa plus belle mort. On l'a un peu aidée à mourir. Et parmi les gens qui l'ont aidée à mourir, bien sûr, c'est les gens qui ont organisé la croisade contre les Albigeois en 1204, puisque Aliénor, elle est morte en
1204.
Voilà, elle est morte l'année justement où Innocent III a organisé la croisade contre les Albigeois. Et donc, parmi les meneurs de cette croisade, c'était Simon de Montfort, le terrible Simon de Montfort. Alors, c'est un peu comme Aliénor d'Aquitaine. On a écrit des choses sur Aliénor, on a écrit le contraire. Et là, c'est pareil, sur Simon de Montfort, on a écrit des choses sur Simon de Montfort et on a écrit le contraire. Mais nous, Occitans, finalement, on n'est pas trop objectifs.
Mais il n'a quand même pas trop la cote ici.
Je dois le reconnaître.
Non, il n'a pas trop la cote.
Alors, je voulais. Il y a la chanson de la croisade albigeoise, donc c'est un roman en deux parties, donc fait par un c'était quelqu'un qui faisait partie justement de la cour de Simon de Montfort, qui a fait la première partie. Donc, enfin, il faisait pas partie de la cour de Simon de Montfort, il faisait partie de la cour de Raymond de Toulouse, qui était plus ou moins apparenté. Il avait un frère qui était pas trop clair. Et donc la première partie, elle est pour les Occitans, mais pas trop. Par contre, la deuxième partie, là, alors je sais pas qui c'est qui l'a écrite. On dit que c'est un anonyme. Et voilà. Alors là, par contre, celui-là, il a écrit des choses magnifiques. Et donc, parmi ces choses magnifiques, il a écrit un épitaphe. Simon de Montfort. Donc Simon de Montfort est mort. Il a été tué, dit-on, par une pierre lancée par des femmes au siège de Toulouse. Et voilà, et voilà ce que nous dit le chroniqueur anonyme dans la croisade contre les Albigeois. On lit donc à Carcassonne, puisqu'il a été porté à Carcassonne, un épitaphe où on le glorifie, on dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire, etc. Je vais vous le traduire après en français. Alors voilà ce qui voilà ce que nous dit le chroniqueur. Tout drette à Carcassonne l'importe un sébélire, et le moustère Saint-Nazaire y célébra et offrir. Et dites l'épitaphe, celle qui sait qu'elle s'al bellégir, qu'elle est saint et martyr, et qu'aide au respirer, et des élgages mirables, hérita et flourir, et pourtant la couronne, et elle règne et saisir. Et you, elle a aussi dire, qu'aïssis de l'avenir, si, per homme aussir, ni per sang expandir, ni per esprit perdre, ni per mort consentir, et per mal conseil créire, et per fiox abrandir, et per barou destruire, et per parage avenir, et per l'aster stoldre, et per orgoul souffrir, et per l'osmal essendre, et per l'bèze escantir, et per donos ausir, et per enfant délire, pot, homme, et naqueste siècle, Jésus-Christ conquérir, elle deu porta couronne, et elle sel resplendir. Alors voilà la traduction, dont nous sommes en 1218. Simon de Montfort, chef des croisés, vient de trouver la mort aux portes de Toulouse, qui s'était opposé à lui. Le cadavre de Simon de Montfort, porté à Carcassonne, est enterré en grand honneur dans l'église Saint-Nazaire. Pour qui peut lire son épitaphe ? Alors voilà la traduction de ce que je viens de vous lire. Saint et martyr, ressuscite, hérite de la joie, fleurit avec Dieu, porte la couronne et siège dans son royaume. Et moi, je dis que si un homme en tuant, en répandant le sang, en causant la perte des âmes, en autorisant les tueries, en suivant les mauvais conseils, en allumant les incendies, en ruinant les barons, en déshonorant honneur, en s'emparant des terres, en soutenant orgueil, en attisant le mal, en étouffant le bien, en massacrant les femmes, en tuant les enfants, oui, il peut, en ce monde, conquérir Jésus-Christ. Alors, Montfort a le droit de porter la couronne et de resplendir dans le ciel. Voilà, je trouve, tout le monde trouve ça... Tous les Occitanais trouvent ça très beau et je suis entièrement d'accord avec eux. Voilà.
Qu'en dis-tu, Marie ? Est-ce que voilà. Tu es ton...
Alors, un commentaire là-dessus, puisqu'on a une historienne... Voilà.
Est-ce que ton domaine d'études...
Alors, moi, je suis pas particulièrement calée en croisade Albigeois. J'ai été visiter récemment la très belle exposition qui avait été réalisée à Toulouse. Oui, qui valait vraiment le coup, qui était vraiment super.
Oui.
Et justement, c'est marrant parce que ça fait un lien aussi avec Aliénor. Justement, cette canso de la croisade anonyme, c'est un chroniqueur et c'est tout à fait ça. C'est que c'est juste cet exemple de il aurait été tué devant Toulouse par une pierre lancée par des femmes.
Oui.
C'est si on remet ça dans le contexte du XIIIe siècle, c'est la pire mort possible pour un guerrier, prendre une pierre et en plus tirer par des femmes. Enfin, c'est vraiment et en fait, quand on se met dans la peau du chroniqueur, bien sûr le but est de pas de ridiculiser, mais on va dire de ôter toute gloire à la mort de Simon de Montfort. Et on est vraiment face à ces chroniques qui sont des sources historiques passionnantes parce qu'en fait, elles sont jamais neutres. Et c'est vrai que nous, quand on les utilise, il faut qu'on ait toujours conscience de ça, que ce ne sont des sources qui ne sont pas neutres, qu'elles ont toujours un objectif, qu'elles sont partisanes. Et c'est assez, c'est à la fois dangereux de les utiliser et à la fois c'est assez drôle et savoureux de les lire parce qu'on voit vraiment la personnalité de l'auteur derrière et tout ce qu'il a voulu et qu'il a voulu exprimer avec ça et donc voilà, c'est toujours assez plaisant à lire.
C'est un petit peu comme si on attribuait une valeur historique à au au tweet de Trump, par exemple.
C'est exactement ça. Bah, peut-être pas à ce point-là, mais les chroniques, c'est vraiment... oui, vous prenez... ça développe l'esprit critique de travailler sur des chroniques. Moi, quand je suis avec des élèves ou des jeunes adolescents, je leur dis, prenez pas ce qui est écrit pour argent comptant. Mais là, c'est vraiment ça. C'est, alors, je ne sais plus, il y a un historien gallois qui avait parlé de Froissart, donc le grand chroniqueur de la guerre de Cent Ans, de la première partie de la guerre de Cent Ans, et qui disait que, en fait, c'était que écrire l'histoire en se basant que sur du Froissart, c'était comme écrire l'histoire écrire l'histoire d'aujourd'hui en ne travaillant qu'avec des magazines People, quoi. Donc c'est un peu ça.
Oui, parce qu'il faut se resituer dans l'époque.
C'est
aussi.
Ça, il faut resituer voilà. Dans l'époque et il faut se resituer sur de quel bord est ce chroniqueur, qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il veut, vers quoi il veut nous faire tendre et donc nous à ne pas tomber dans le piège, quoi.
Oui, oui, d'ailleurs, il y a un autre extrait aussi qui est très célèbre et qui est souvent cité. C'est la fameuse pierre. Donc, la fameuse pierre
oui.
qu'il est. Voilà. Donc, je vais vous dire deux mots juste parce que. Voilà. Donc, ac des unum peirero que fait us et carpenter, qu'es de sincerni traito la peirero el sulers, et tirabon las donos et tousos et mulier. Et ventudre de la peiro la un ero mestier, et ferix ilucunte sobre l'elm, qu'es d'acer. Quels ailes, c'est la cervelle, elle scaïcha l'estrémier, elle froune et la smaïchelle, elle partit à quartier, elle comme casèque en terre morte, et sannin et niers. Alors je vais vous le traduire, si je le trouve. Une pierre fabriquée par un charpentier est tirée de Saint-Cernin jusqu'au rempart par les dames, les jeunes filles et les femmes mariées. Et la pierre vint tout droit là où il fallait. Elle frappe si fort le comte sur son homme. Qu'elle lui met en morceaux les yeux, la cervelle, les dents, le front et les mâchoires. Le comte tombe à terre, mort, ensanglanté et livide. Voilà, c'est tout à fait ce que vous dites.
C'est ça.
Voilà, mais effectivement, l'ennemi est heureux, l'ennemi est content. Voilà.
Est-ce que tu veux parler, Jean-Claude, du livre d'où tu tires ces... Donc ça, c'est un livre
oui.
de Cathy Bernard.
Oui, c'est un livre CD. C'est Cathy Bernard oui, qui a fait ça il y a quelques années. C'est lecture-spectacle. Elle a fait... Vous êtes au courant, oui. Voilà, donc elle est avec des amis à elle. Elle est venue en Périgord, d'ailleurs. Elle l'a présenté. C'est un livre CD. Le CD, justement, c'est un peu une mise en scène. Mais bon, Cathy Bernard, c'est quand même une référence.
Ah oui, oui,
alors,
clairement.
C'est vrai que... Bon, elle aussi, elle est...
Dans mon livre sur Aliénor d'Aquitaine, je me suis servi, notamment pour... tout ce qui était parler des troubadours, etc., et de la culture occitane, de son livre sur les mots d'Aliénor, oui, oui, puis très bien documenté,
très
sérieux.
Oui, et puis c'est vrai qu'elle a commencé d'abord avec le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine,
oui.
Guillaume IX de Poitiers, oui, je pense qu'elle avait fait, je ne sais pas si une thèse, elle a fait quelque chose sur
Guillaume IX, je ne sais pas le sujet de Guillaume sa thèse,
IX,
mais oui, je crois voilà. qu'en effet, elle a travaillé sur les textes de Guillaume IX.
Et après, elle a continué à travailler sur... Oui. Mais Guillaume IX, c'est pareil aussi, c'est un personnage très, très intéressant. Oui, oui. Allez, un peu de musique.
Oui, on va retrouver une artiste qui a été notamment parrainée par Francis Cabrel. Elle s'appelle Séverine Bonin.
Séverine Bonin, oui. Voilà,
de notre région.
Oui, elle est de notre région. Mm-hmm. Oui.
On va travailler local aujourd'hui. Et bien sûr, en langue occitane tout de suite.
Ça s'appelle Impar.
Un Stemska kinunes pos Un se trenur las victorios Un se iurumus cumbats Quisos todera desfaitos Quiten precios en retraitos Nunia poste presancio Nimai nunia solicio Nimai nunia tapsancio
Voilà une magnifique chanson à l'instant, Séverine Bonin, dans notre émission consacrée à la culture, la langue occitane. Jean-Claude Dugros, Marie-Hélène Désert.
Alors pour en finir avec, enfin pour en finir, non, 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 pas pour en finir avec Aliénor, mais pour en finir avec cette discussion sur Aliénor, hors micro, tu parlais de la légende noire, Jean-Claude, et Marie répondait en disant « oui, on a dit un peu de tout ». Est-ce que tu veux en parler, Marie ?
Oui, bah, assez rapidement. En réalité, on se rend compte que cette légende, bah, on revient à nos fameux chroniqueurs, hein, puisque c'est d'eux que naît cette légende. Qui sont les chroniqueurs ? Des clercs. Et à cette époque-là, on est dans la deuxième moitié du XIIe siècle, donc dès le vivant d'Aliénor d'Aquitaine. Hein, ils n'ont pas attendu qu'elle meure pour raconter
elle est suspecte,
des choses
hein,
sur elle. Elle est suspecte à plus d'un titre. Bah, déjà parce que les chroniqueurs... en général, ont un mécène et qu'ils vont aller dans le sens de la personne qui les entretient. Et une autre raison, c'est que je disais, donc ce sont des clercs. On est dans la deuxième moitié du XIIe siècle et on a une période où va commencer à émerger ce qu'on appelle la société cléricale, qui est vraiment, qui va après donner naissance à l'université, etc., aux universités. C'est la société cléricale, c'est donc une société idéale pensée par tous ces hommes d'église, notamment je citais Bernard de Clairvaux, mais donc il y en a d'autres, et qui est en fait que Dieu a donné une place à chacun dans la société sur Terre, et que ceux qui tentent de sortir de cette place-là, en gros, s'érigent contre Dieu. Et donc Aliénor d'Aquitaine, en tant que femme, eh bien il l'accuse de vouloir avoir le rôle d'un homme et pas le rôle d'une femme, et donc on va retrouver pas mal de textes où elle va être accusée de ça. Et donc par son comportement. Entraîner la ruine de sa famille ou des gens autour d'elle. Bernard de Clairvaux va dire que c'est par son comportement qu'elle a pas d'héritier mâle, elle donne pas d'héritier mâle à Louis VII. Et on a tout un tas de chroniques qui vont inventer des histoires, notamment à partir de la seconde croisade et cette fameuse deuxième croisade où ils atterrissent chez Raymond d'Antioche, qui est l'oncle d'Aliénor, oncle qui est quasi frère puisqu'ils ont à peu près le même âge. Et donc de là va naître toute cette légende. Alors ça va monter crescendo, j'ai pas forcément le temps de tout détailler, mais petit à petit, on va se retrouver avec des textes du type qu'elle avait des rapports plus proche qu'elle n'aurait dû avec son oncle Raymond d'Antioche. Et puis après, il y en a un qui finit. Alors, la quintessence de la chronique, c'est qu'il y en a un qui finit par raconter qu'elle avait carrément eu une relation avec Saladin. Enfin, voilà, c'est vraiment le comble de l'horreur, puisqu'en plus, Saladin avait repris Jérusalem. Enfin, voilà, on est vraiment dans une construction, bien sûr. Hein. Ça, les choses n'ont pas changé. Quand on veut s'en prendre à l'image d'une femme, hein, on s'en prend à sa vertu ou à sa sexualité. Ben là, on est exactement dans ce
là,
type
en plus,
de construction.
En plus, c'est une traîtresse, là, pour le coup.
Voilà, et en plus, c'est une traîtresse, alors avec les infidèles, etc. Et côté anglais, on va l'accuser d'avoir eu une aventure avec le père d'Henri Plantagenet avant d'épouser le fils. Enfin, voilà. Donc, elle va être... Alors, il y a quelques chroniques qu'il a défendues, mais elles sont extrêmement rares. Mais voilà, d'où naît cette légende, en fait, tout simplement. Et juste pour finir, puisque souvent on l'associe aussi à la légende arthurienne, je vois, il y a des romans historiques qui sortent qui vont raconter, oui, c'est des, qu'elle a un rapport avec le diable, etc. Là, on est aussi dans une... Par exemple, c'est... comment il s'appelle ? Geoffrey de Monmouth, c'est un Anglais, si je ne dis pas de bêtises. C'est un Anglais, il a écrit les prophéties de Merlin, donc avant qu'Aliénor épouse Henri Plantagenet, mais après on va dire, ah oui, regardez ces prophéties, ça s'appliquait à elle, comme quoi, eh bien, il allait y avoir une personne qui allait rentrer dans la dynastie et qui allait, voilà... mettre la pagaille et on dit ah ben oui, a posteriori on dit ah ben oui, ben c'était elle, et donc toutes ces relations diaboliques, etc., etc., on va rajouter, tout va être monté en épingle, et ça, on en arrive à ce qu'on peut lire dans des romans historiques aujourd'hui qui sont mais complètement farfelus. Alors je comprends que ce soit pas des livres d'histoire, mais j'avoue que parfois quand ça va trop loin, j'ai un petit peu du mal.
Mais l'historienne que tu es doit réagir assez fort dans ces récits.
Il est possible que des gens un peu croient des choses comme ça, mais et puis c'est vrai que tout de suite, quand il y a un petit quelque chose, hop, ça prend de l'importance, et puis ça devient une réalité. Quoi.
C'est ça, et puis en fait, ce qui est assez drôle à voir, c'est que vous allez avoir des... Alors vous savez que quand on a des incohérences avec le diable, on va chercher sur votre corps s'il y a la marque du diable. Hein. C'est ce qu'on fait dans les trucs de sorcellerie, etc. Et là, alors, il y a deux chroniqueurs anglais qui la défendent, ça date du XIIIe siècle, et là, ils racontent qu'elle se serait dévêtue devant tous les barons pour prouver qu'elle n'avait pas d'incohérences avec le diable. Et là, ils disent, oh, mais alors, elle était tellement belle, c'est pas possible qu'elle soit sorcière, elle est tellement belle, alors que les autres à l'inverse disent ou elle est trop belle, c'est pas normal, c'est louche, comme ça elle peut manipuler les hommes. Vous voyez un peu la manière
ouais.
Donc c'est ce qu'on peut lire dans cette légende là.
Donc lisez parce qu'en fait tu parles de tout ça dans ce petit livre Aliénor d'Aquitaine, la duchesse qui fut deux fois reine, aux éditions Memoring, par Marie Fauré.
Voilà, deux fois reine, mère de roi.
Oui.
C'est vrai, c'est un personnage extraordinaire.
Voilà.
Allez, pour faire honneur donc à Marie, et puis pour la remercier d'être venue dans notre émission, on va écouter une chanson d'un catalan célèbre.
Avant de nous quitter, on va aussi rappeler un événement important, Nadao, qui sera en concert à l'Aréole. Ça sera le 30 mai prochain. Invitation surprise, concert prévu notamment dans la salle, le gymnase précisément de Colette Besson. Donc si vous avez envie de réserver, si vous l'avez raté à Pellegrue, eh bien vous aurez une deuxième chance cette année du côté de l'Aréole en Gironde. Et puis une belle tournée aussi qui passera par Toulouse, Limoges aussi, très prochainement, donc ne ratez pas.
Et le mois prochain, on aura le plaisir de parler de la Fée Librée.
Avant la Fée Librée, cher Jean-Claude, il y a aussi la journée des ateliers, la journée de tes ateliers,
oui,
le
vrai.
19 juin.
Le vendredi 19 juin à 17h.
À la Force.
À la Force, au centre, voilà. Centre culturel, centre culturel. Voilà, donc comme tous les ans, tous nos amis sont invités, les parents, les enfants, le chien, le chat, à condition qu'il parle occitan, bien sûr.
Ça va être un petit peu plus difficile d'ici au 19 juin.
Le perroquet sera plus simple.
Le 27 juin...
Oui.
Le 27... Non, mais là, ce que tu dis me déconcentre, là. Parce que le perroquet, je pense à tout le vocabulaire qu'il va falloir qu'il apprenne. Bon, bref. Et le 27 juin, à Port-Sainte-Foy, petite fête occitane de l'atelier d'Occitan du pays foyen, où tout le monde est invité. Donc, ça se passe l'après-midi. C'est un samedi, avec une auberge espagnole le soir, et on y fera de la musique, de l'initiation aux danses, etc., etc. Il y aura des jeux aussi, il y aura des jeux dehors. Voilà, alors n'hésitez pas, venez nous voir. Voilà,
l'atelier d'Occitan de Port-Sainte-Foy, je rappelle, qui est animé par Marie-Hélène.
Alors, il y a donc le 19 juin à La Force,
voilà.
Le 27 juin à Sainte-Foy,
oui.
À Port-Sainte-Foy, voilà, et n'hésitez pas à vous rapprocher de la radio. Pour avoir les coordonnées, les numéros de téléphone, et tout, et tout.
Et notre chanson, donc, il s'agit de L'Estaco.
Alors, peut-être une petite présentation de l'artiste par notre invité.
Ah oui, Louis Slack, on en a parlé un petit peu au début, mais du coup, c'est vrai que bon, j'ai vécu un certain nombre d'années en Catalogne, et c'est vrai que c'est une chanson qui revient très souvent, c'est une chanson à laquelle les Catalans sont assez attachés, voilà, dans la lutte pour le respect de leur identité catalane. Donc, chanson de 1974, si je ne me trompe pas.
Absolument. Il a pris de grands risques pour aller la chanter en Espagne, oui.
Oui.
Et comment on dit au revoir en catalan ?
Adeu.
Et Adichat, en occitan.
Adichat.
Et au mois prochain, alors.
Alors, à l'esquivé.
Adeu.
Adeu.
La vie si s'est en parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar.